Je m'appelle Paul Evry, je suis un pasteur à Bruxelles et je suis en vacances. Au sud de la France, je viens visiter mon frère et aussi mon frère Marc-Étienne, mon frère en Christ. Et en fait, j'ai aussi donné des cours à Marc-Étienne lorsqu'il était à Bruxelles en formation à l'Institut biblique belge où je suis professeur. Et je suis venu aussi pour la journée d'hier, la journée de prière pour la passer avec vous. Et je repars vraiment béni par le fait que j'ai reçu hier avec vous des bénédictions parce que vous avez prié pour moi et pour ma famille, pour mon ministère. Je garderai donc un bon souvenir de votre communauté du temps que j'ai passé avec vous, même si c'est juste un court week-end. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être là hier et aujourd'hui et pouvoir passer ce moment avec vous. Moment privilégié. Et j'ai aussi aimé d'avoir les enfants avec nous dans ces premières parties parce qu'à l'église de chez nous, on n'a pas souvent ça. Donc, j'ai trois enfants, mais je suis pas souvent avec eux lors des moments où on chante au Seigneur. Donc, c'est aussi un plaisir pour moi. Nous allons prier et puis ouvrir la Bible ensemble aux Philippiens, l'épître aux Philippiens. Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci parce que ta parole est vivante. Elle nous parle aujourd'hui, c'est l'outil de ton Saint-Esprit qui l'a inspiré. Et nous voulons te remercier aussi que par ces paroles, tu nous purifies, tu nous transformes et tu nous donnes une meilleure vision de toi. Aide-nous à repartir aujourd'hui avec les bonnes qualités, celles que tu veux développer en nous. Et nous te prions que nous soyons remplis de joie et de paix en particulier, afin que nous puissions vivre pour toi, être un témoignage pour toi, verbalement et puis aussi dans notre façon d'être, dans nos relations, dans notre famille, mais aussi dans l'Église. Et nous te prions que tu sois glorifié par nous, ici à Cavaillon et aussi à Bruxelles. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler de Philippiens 4 et notre attitude, et en particulier de la joie et la paix. Comment trouver la joie et la paix? Je me souviens que j'étais, il y a un temps, à un aéroport, et j'essayais de trouver un livre pour acheter pour ma femme. J'avais été absent, je me suis dit, bon, ce serait quand même gentil de revenir avec un cadeau en main. Et je cherchais dans les magasins un livre, dans l'aéroport. Bon, pas grand-chose. Beaucoup de livres sur comment réussir sa vie, comment faire lancer votre entreprise en 60 minutes, comment devenir une des personnes les plus riches du monde, mais aussi des trucs un peu plus ésotériques, du genre, voilà, comment trouver la paix intérieure, comment cette clé pour réussir sa vie personnelle, des choses comme ça. Finalement, ça ne m'avait pas l'air vraiment d'être un bon cadeau, donc j'ai acheté des fleurs, parce que je sais que ça marche toujours avec les femmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres comme ça qu'on peut acheter à foison pour le développement intérieur, le développement de la personne, le développement personnel de sa vie. En plus des conseils qu'on peut trouver pour l'automobile ou le jardin ou la famille ou le travail. Et peut-être qu'on pourrait se tourner vers la Bible en disant, mais voilà, je veux réussir ma vie. Peut-être que ce manuel écrit par notre Créateur peut nous donner des astuces pour bien réussir notre vie. Qui n'aurait pas envie de joie et de paix dans leur vie? Mais il faut d'abord savoir qu'avant de parler de la joie et de la paix, le plus important, bien sûr, dans la vie, c'est de connaître Dieu. Et que Dieu a justement inspiré la Bible, les paroles de la Bible, afin qu'on le connaisse. Il se révèle à travers cette parole. Et donc, on ne vient pas à la Bible simplement pour trouver des astuces pour que je puisse réussir ma vie, mais plutôt que ma vie soit orientée par la connaissance de Dieu, qui a bien voulu que je le connaisse. Ça, c'est la chose la plus importante. Et pour Paul aussi, l'apôtre qui a écrit l'épître, la lettre aux Philippiens, il le disait aussi, le plus important pour moi, c'est de connaître Christ. Je considère tout comme une perte, à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et il ajoutait encore, chapitre 3, verset 10, « Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » C'est ça le plus important. Mais c'est grâce à cette connaissance de Christ que notre vie change et on développe justement ces qualités intérieures, cette joie et cette paix, la paix avec Dieu, qui va se manifester aussi dans les relations et dans notre état d'âme. Donc on reprend la lecture. On avait regardé les autres parties de l'épître hier. Et on avait lu ceci brièvement hier, mais on va le reprendre. Chapitre 4, et à partir du verset 1. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et de ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Voilà, on va voir trois choses par rapport à la paix à partir de ce passage. D'abord, la joie et la paix fraternelle. Paul, bien sûr, trouvait sa joie en Dieu. Il était là en prison, il était éloigné de ses frères et sœurs. Il trouvait sa joie en Dieu, il se réjouit dans le Seigneur. Mais il est aussi vrai qu'il trouvait sa joie dans ses amis. Et en particulier, le souvenir qu'il avait des Philippiens qui étaient ses amis proches, qui étaient ses supporters et qui l'avaient aidé dans son ministère, cela lui apportait de la joie. Ainsi, au verset 1, il peut leur décrire comme sa joie personnelle. La Bible est très franche. On peut trouver beaucoup de joie par le fait que nous avons nos frères et sœurs dans l'Église. Lorsque nous avons des invités à notre chapelle, à l'Institut, chaque semaine, on leur pose une question pour préparer les étudiants à savoir à quoi ressemble l'Église. On leur demande, est-ce que vous pouvez parler d'une joie et une peine dans le ministère? Et ils ont toujours beaucoup d'exemples de chacun, des joies et des peines. Il y a de la joie, et généralement, c'est les joies qui comptent plus pour le ministère. Les joies d'être dans la famille de Dieu. La joie d'avoir des frères et sœurs qui travaillent avec nous. La joie de voir les personnes se tourner vers Christ, leur sauveur. Et donc, le chrétien doit tenir ferme, il le dit au verset. Tenez ferme dans le Seigneur. L'alternative, c'est de nous focaliser sur le moment présent et de regarder les difficultés, par exemple les difficultés de Paul d'être en prison, ou la difficulté des Philippiens d'être seuls sans Paul et d'être un peu désemparés face à l'opposition auquel ils devaient faire face. Et de dire, oh, est-ce que le Seigneur va vraiment revenir? Est-ce qu'on va vraiment être abandonné ici? Qu'est-ce qui va se passer? Mais tenez ferme dans l'espérance de notre retour, le retour de Jésus-Christ et notre union avec lui. Mais alors quand on tient ferme et quand on est dans la joie d'être dans l'Église, il y a aussi la paix fraternelle qui doit se développer. Et alors, on pourrait se poser la question de qui pensez-vous se disputerait dans une église avec des personnes chrétiennes aimables comme à l'église de Philippe? Qui pourrait se disputer? Est-ce que ce seraient les nouveaux chrétiens, les moins mûrs? Est-ce que ce seraient les nouveaux venus? Ben, détrompez-vous. Ici, il est question de deux dames, Évodie et Syntyche, verset 2, qui avaient de l'expérience de l'évangélisation. Elles avaient combattu, elles avaient prié avec Paul, elles avaient été actives en tant que missionnaires ou en tant qu'évangélistes dans le ministère, et pourtant elles n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Mais vivre dans la paix, c'est se mettre d'accord, plutôt que se disputer, se diviser. C'est pas juste la paix où chacun est dans son coin, c'est la paix où on est vraiment réconciliés les uns avec les autres. Alors j'imagine que elle se disait, mais c'est pas facile, parce que Syntyche, elle a un fameux caractère, et Évodie, elle est très têtue. Et Syntyche a beaucoup de problèmes, et Évodie, elle a des faiblesses sur le plan relationnel. Et chaque fois, c'était la faute de l'autre, pourquoi elle ne se réconciliait pas. On ne connaît pas les détails de cette situation, on ne connaît rien d'autre sur ces dames, mais c'était devenu si grave et si persistant que Paul, l'apôtre, bien éloigné d'eux, était au courant que ces deux dames ne s'entendaient pas du tout. Alors il faut parfois prendre position face à une erreur, comme l'a fait Paul face à l'apôtre Pierre dans Galates 2. On trouve que Paul est allé trouver Pierre et lui dit non, tu es en erreur. Paul ne cherchait pas la paix à tout prix. Ce n'était pas quelqu'un qui était juste là pour apaiser tout le monde. Il était emprisonné parce qu'il avait annoncé l'évangile. Justement, ça lui avait coûté cher d'être fidèle à la parole de Dieu. Mais les différences personnelles, uniquement personnelles, ne devraient pas diviser l'Église. Parce que dans la perspective du retour du Seigneur, on doit justement travailler ensemble pour l'Évangile. Ils ont combattu pour l'Évangile et pas se combattre contre les autres qui sont dans l'Évangile. Et Paul rappelle que ce qui cause notre paix, c'est le Seigneur. Vivre en plein accord, verset 2, dans le Seigneur. L'Évangile, il rappelle aussi, verset 3. Comprendre qu'on est co-ouvriers et ils ont combattu avec moi. Il y a des fidèles collègues, des collaborateurs, Clément et ses deux dames et d'autres. Et aussi leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. N'est-ce pas incroyable de penser que Jésus ouvrira le livre de vie pour trouver les noms inscrits. De temps que là, Évodie et Saint-Igle, leurs noms sont juste côte à côte. Et pourtant, ces deux dames n'arrivaient pas à s'entendre. C'est ça, en fait, Paul rappelle l'ironie de cela. Que leurs noms sont tous les deux inscrits dans le livre de vie. C'est pas une non-chrétienne et une chrétienne. C'est deux sœurs en Christ. Et elles devaient trouver cette joie et ce chemin vers la paix. Et vous aussi, vous devez le faire. Nous aussi, nous devons vivre. Si nous avons des problèmes, un désaccord, nous devons chercher à nous réconcilier. Alors c'est toujours la faute de l'autre, bien entendu. Et on a toujours tenté à voir les problèmes de l'autre personne. Et ainsi, on n'est jamais réconcilié. Mais en fait, ce qu'on doit faire, c'est reconnaître nos propres fautes. On doit prendre l'habitude d'être honnête face à la parole de Dieu. Et puis se remettre en question. Être prêt à reconnaître, voilà, j'ai eu tort, je demande pardon, et je suis prêt maintenant à changer de comportement. Autrement, on est bloqué. Et ça va toujours être comme ça. On sait que souvent, il y a des frictions, et puis après, avec l'électricité, il y a du feu. Mais un de mes anciens a dit ceci, au lieu de mettre de l'huile sur le feu, il faut le mettre dans les rouages. J'ai bien aimé ça comme petit dicton. La Bible est réaliste par rapport à l'Église. Dieu sait comment on est. Et la Bible décrit des problèmes dans les églises, même les bonnes églises, comme celle à Philippe. Elle sait que nous pouvons être frustrés par les chrétiens. Alors, avons-nous de la joie dans nos relations? Avons-nous de l'amour qui couvre les offenses des autres? Avons-nous de l'attitude paisible où on cherche à se demander pardon les uns aux autres? Ou est-ce qu'on vit dans la rancune, les désaccords? Sommes-nous en paix? Cette paix, vraiment, elle est riche. Ce n'est pas juste la paix de la distance, mais c'est une paix riche de bonne entente. On va se faire du mal dans l'Église parce qu'on est tous pécheurs, même si on est pardonné par Christ. Et nous devons donc faire attention de ne pas juste garder un petit carnet de mal que les autres nous ont fait. Un petit carnet où on note, lui il m'a fait ça, lui il m'a fait ça. Mais plutôt qu'on doit être prêt à, même si on ne comprend pas pourquoi on a été blessé ou ce qui s'est passé, prêt à parler. Et puis tourner la page, ou même brûler le carnet pour qu'on ne garde plus le record, le registre du mal que les autres nous ont fait. La joie, la paix, elle est relationnelle dans l'Église. Deuxièmement, on voit que la joie et la paix sont dans la prière, viennent par la prière. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dit-il au verset 4, je le répète, réjouissez-vous. Alors comment est-ce possible que Paul, qui était là dans des situations très difficiles, des grandes difficultés, pouvait quand même penser en termes de joie. Paul, est-ce que tu ne sais pas que tes critiques et tes rivaux sont en train de prêcher l'évangile à ta place? Et ils disent, oui, je le sais, chapitre 1, verset 18, et je me réjouis. Mais est-ce que tu te rends compte que tu risques ta vie pour Christ? Tu pourrais mourir, là, ça pourrait être la sentence finale. Oui, dit-il, et je me réjouis, chapitre 2, verset 17. Paul aurait pu être un homme très stressé. À notre époque, on dirait, mais c'est pas possible. Un homme qui s'apitoierait sur son sort, naturellement. Mais au lieu de cela, il se réjouit. Et à Philippe, comment allait-il réagir au fait que leur frère, Épaphrodite, avait été malade, d'une maladie presque fatale? Eh bien, chapitre 3, verset 1, il dit, réjouissez-vous. Comment réagir? Même après qu'il ait décrit des ennemis de la croix, au chapitre 3, verset 18, des ennemis de la croix de Christ qui sont là, prêts à influencer l'Église, eh bien, il leur dit, chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous. Voyez-vous, quand on prend ce verset et qu'on ne le met pas hors contexte, juste sur une affiche, sur un mur, avec un beau un agneau ou une biche ou un coucher de soleil. Mais quand on voit à qui et de qui venait cette instruction, réjouissez-vous dans le Seigneur, alors c'est beaucoup plus marquant. Parce qu'on se dit, mais c'est difficile pour moi de me réjouir. Moi, j'ai envie de râler parfois. Et je ne trouve pas des raisons de me réjouir en regardant mes circonstances. Comment puis-je alors trouver la raison de me réjouir? Ben, je peux me réjouir en le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Verset 4. Mon Seigneur est toujours bon. Notre Seigneur est toujours fidèle. Son Esprit est toujours avec nous. L'œuvre de Jésus à la croix compte toujours pour nous. Que nous ayons passé une bonne semaine, ou un bon mois, ou un mauvais mois. Et les choses dont il a parlé au chapitre 3, verset 20, juste le passage avant le nôtre, sont toujours d'actualité. « Quant à nous, dit-il, notre droit de cité est dans le ciel, notre citoyenneté, elle est là-haut. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre sauveur, et il est Seigneur, il est souverain. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Donc là, il y a des choses dont nous pourrons nous réjouir. Mon avenir est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Mon avenir est de ne pas être poivré dans mon corps mortel et faible, qui s'affaiblit et qui vieillit, mais d'être dans ce corps glorieux qu'il a préparé pour moi. Et son retour est certain. Donc n'attendez pas vos émotions, parce que les émotions, c'est bien que parfois elles sont en hausse, parfois elles sont en baisse, mais on doit faire un effort de notre volonté en se concentrant sur la vérité et dire « Je vais me réjouir en Christ ». Et les émotions suivent alors cette démarche. Une fois qu'on se met à nous réjouir, les émotions suivent. Je n'ai pas besoin de réclamer mes droits. Je peux être quelqu'un de doux, comme il est décrit au verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, parce que le Seigneur est proche. » Et je sais que le Seigneur, à son retour, va régler les comptes. Il va montrer qui est roi. Et il va montrer ce qui est juste. Donc, si je suis chrétien, en tant que citoyen des cieux, attendant vivement le retour de Christ, je ne me dispute pas, verset 2, je ne râle pas, verset 4, je ne réclame pas, verset 5, je suis doux, et verset 6, je suis capable de ne pas m'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. S'inquiéter est un péché, donc je suis coupable. Je ne pense pas d'une pensée inquiétante, ça peut nous arriver à tous, mais de demeurer dans une attitude d'inquiétude. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'inquiète, on pense que s'inquiéter, c'est la solution. C'est ça, n'est-ce pas? Je sais, quand je suis éveillé la nuit, je repense à mes soucis, je pense que si j'arrive quand même à continuer à réfléchir à mes soucis, ça va aller mieux. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Mais est-ce que je pense que moi, je suis la solution à mes problèmes? C'est pas moi la solution. Et s'inquiéter ne va pas m'aider à résoudre cela. Ça n'apporte pas la paix. Comment trouver la paix? Au lieu de l'inquiétude, la paix, justement, se trouve, verset 6, lorsque je prends mes inquiétudes ou mes sujets d'inquiétude et je fais connaître mes besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Reconnaissance, peut-être que mes épreuves ne sont pas pires qu'elles le sont. Reconnaissance pour les bonnes choses que je vois quand même que Dieu est en train de faire, pour son amour pour moi, et prier. Et quand je prie avec mes supplications en demandant « S'il te plaît Seigneur, aide-moi dans cette situation », verset 7, « La paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà l'échange remarquable. Ce n'est pas une illusion psychologique. C'est la réalité d'un transfert entre nous et Dieu. Comment ça marche? Nous lui donnons nos soucis et lui, il nous donne sa paix. Ça, c'est un transfert où on gagne, n'est-ce pas? Nous, on lui donne nos soucis, il nous donne sa paix. Bonne affaire. Parce que nous allons connaître des troubles et des peines effroyables dans notre vie. Si on considère nos frères et sœurs dans le monde qui sont en train d'être persécutés, qui nous dit que ça nous sera épargné ici en France? Pensons aussi à toutes les autres souffrances auxquelles nous devons faire face, la maladie, les difficultés, les problèmes. les pertes, pertes d'êtres chers, maladies humiliantes, toutes sortes de choses qui pourraient encore naître devant nous, n'est-ce pas? Mais nous pourrons nous réjouir en Dieu et le remercier en toutes circonstances. Parce qu'il le dit, remercier le Seigneur. Et je pense que là, un des auteurs qui a écrit sur le livre de Philippiens a raison. Remercier Dieu, il dit, remercier Dieu qu'il est toujours avec vous, que vous pouvez lui parler, qu'il vous écoute. Votre problème n'est pas un problème éternel, car votre place au ciel est assurée avec Christ. Remerciez Dieu que votre problème n'est pas plus grave, qu'il donne la grâce pour le supporter. Il vous apprend à lui faire confiance. Il est plus sage que n'importe qui d'autre. Et donc je trouve des raisons pour me réjouir en lui. Et on doit, comme quelqu'un l'a dit, prêcher à soi-même. On doit nous interpeller nous-mêmes. Mon âme, pourquoi être abattue? Et plutôt donner des raisons à notre cœur pour nous réjouir. Vous voyez comment la paix là peut remplacer alors notre inquiétude face à nos problèmes. Et puis rapidement les derniers versets. Bon, rapidement, plus ou moins rapidement. Je ne fais pas de promesses. La paix de Dieu, on l'a lu au verset 8, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, verset 8, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Là, c'est le Dieu de la paix dans notre réflexion. J'aurais pu peut-être dire méditation, mais ce serait trompeur. Parce que c'est différent de la méditation orientale qui est tellement à la mode ces jours-ci. Au lieu de se distraire de nos inquiétudes en regardant la télé ou en faisant autre chose, on transforme notre inquiétude en prière, comme on l'a dit. Et au lieu de ne penser à rien, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas, videz votre pensée, comme ça vous avez l'esprit vide, il dit, la méditation biblique, c'est remplissez vos pensées. Portez vos pensées sur tout, plein de choses. Choisir de demeurer sur certaines pensées. Et encore une fois, ça nous montre que, comme avec l'inquiétude, en fait, le cours de nos pensées n'est pas juste un accident, un hasard. On choisit de demeurer sur certaines pensées, soit des pensées qui sont bonnes, ou alors des pensées qui sont nocives. Alors, qu'est-ce qui joue sur le disque de vos pensées? C'est un peu un choix de retourner dans votre tête la méchanceté de vos parents, ou la médiocrité de votre contemporain, de vos contemporains, ou le mal dans le monde d'aujourd'hui, ou une offense commise par un frère ou une sœur. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça, c'est tellement grave, c'est vraiment hallucinant que quelqu'un puisse faire ça. Et on continue à tourner en rond sur les mêmes choses. Ou un rêve de vengeance, un jour je montrerai que c'est moi qui ai raison, ou je l'écraserai. Et ça peut tourner, n'est-ce pas, sur le disque, mais il faut changer le disque. Il faut penser à ce qui est juste. Et ce qui est juste, ben, c'est ce que Dieu nous a révélé par rapport à comment être devant lui. Et je pense que peut-être c'est tout simple, hein, mais il faut réfléchir à la proportion de temps donnée à la télévision vis-à-vis de la Bible. Parce que c'est trop facile, en fait, de dire, je quitte la salle le dimanche matin, et voilà, j'ai fait mon devoir chrétien, j'ai écouté la Bible. Et puis le reste de la semaine, vivre comme si de rien n'était, même à la fin de la journée. On peut dire, voilà, je regarde un film, j'ai écouté la prédication pendant 30 minutes, mais je regarde un film qui dure 2 heures. C'est déjà 4 fois le nombre de la quantité de temps que vous avez eu passer à méditer la parole. Et puis vous ajoutez le journal en semaine ou quelques feuilletons et vous êtes facilement à 8 heures de télé. 16 fois le nombre de la quantité de temps que vous avez eu dans la parole le dimanche matin. Et la télévision ne nous rappelle jamais que Dieu est là ou que Jésus revient. C'est grande vérité de la Bible. Les documentaires ne parlent pas de la même conception de Dieu. Le journal télévisé ne présente pas des choses sous l'angle de Dieu, mais seulement sous l'angle humain. Et les concours de chant ne donnent pas gloire à Dieu pour les dons musicaux. Tout cela, dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on consomme, Dieu est mis de côté, mis à l'écart. Et ça renforce l'idée que, en fait, le monde nous appartient. Alors évidemment, je ne suis pas en train de critiquer les produits culturels, parce qu'on est humain et il y a des choses qui sont bien créées par d'autres personnes. Et dans un sens, on peut les utiliser pour glorifier Dieu en disant, mais Seigneur, merci, tu as créé là, des bonnes valeurs et de bonnes histoires ou des bons chanteurs. Mais en même temps, il y a le péché qui nous attire. Et on doit être vigilant par rapport à nous-mêmes, parce qu'on peut très facilement se remplir de lectures ou d'images ou de chants qui vont trotter dans notre tête, mais qui vont nous éloigner de Dieu. Et au lieu de faire cela, on doit apprendre à remplacer ces choses par de bonnes lectures, de bonnes paroles de chant, de bonnes images, de bons versets, pour que réellement on puisse dire, voilà, je médite ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui est digne d'être aimé, ce qui mérite l'approbation, qualité morale, digne de louange, de tous les aspects de Dieu en fait. Et quand on fait cela, verset 9 nous donne une promesse, si vous mettez cela en pratique, le Dieu de la paix sera avec vous. Au verset 7, il est question de la paix de Dieu, mais là au verset 9, c'est le Dieu de la paix. Comme pour rendre cette paix encore plus personnelle. La paix, ce n'est pas juste une qualité qu'on peut trouver là-dedans, ah, ce qui est dans mon cœur. Mais ça vient du fait qu'on est en relation avec le Dieu de la paix, le Dieu qui donne sa paix et qui nous réconcilie avec lui en Jésus-Christ. Et donc je conclue en disant que quand Dieu nous préoccupe plus que toute autre chose, alors nous développons la paix. D'abord la paix qui découle de lui et de notre relation avec lui, dans nos relations avec les autres, pour qu'on cherche à vivre en paix avec les frères et sœurs à l'Église. Puis l'Esprit nous accorde la joie. Pas individuellement en disant, moi je suis content, mais la joie quand on voit d'autres personnes aussi aimer le Seigneur, le même Seigneur que nous. Et cette joie est fraternelle, elle est commune. Et puis, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous allons, j'espère, voir cette semaine, ce sont des chrétiens qui sont contents en Dieu, qui se réjouissent en Dieu, parce qu'ils ont la tête remplie des pensées de Dieu, au lieu des pensées humaines ou vers le péché. Que Dieu soit notre joie et que Dieu soit notre paix. Je vais prier pour nous. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous n'avons pas la joie et la paix en nous-mêmes. Et même si nous avons eu des moments avec beaucoup de joie et beaucoup de paix, nous savons que ces choses fuient loin de nous. Et donc nous te prions, Seigneur, que tu renouvelles dans notre communion avec toi le fait que nous soyons en paix, que nous réjouissions aussi avec toi et en toi. Et puis, Seigneur, aide-nous à penser aux autres qui sont autour de nous comme notre joie, comme des personnes avec qui nous pouvons développer des relations paisibles. Et aide-nous surtout à remplir nos pensées, de jour en jour, toute la semaine, de tes pensées, de méditer ta vérité, de nous remplir les pensées plutôt que de nous vider les pensées, et ainsi à marcher avec toi dans cette nouvelle vie que tu veux pour nous. On connaît Christ, on communie à sa souffrance, et on attendra la résurrection. Au nom de Jésus. Amen.